Petit disclaimer, le micro d'Antoine n'a pas fonctionné durant l'introduction et j'utilise ce que mon micro a capté pour ses réponses. Tout redevient normal après le premier extrait musical à 8 minutes 57. Bonne écoute.
Et je trouve ça grave intéressant parce que ça te permet vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment permis de vivre différentes vies que j'aurais pas eues si j'étais pas photographe, quoi. Ça me permet d'être un jour à la cité en train de tourner un clip avec des fusils à pompe. Et le soir même, je suis à l'ambassade du Brésil pour un défilé de la Fashion Week avec tous les petits chichis qui vont avec. You remind me of butterfly dolls, waist tight with a bow. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast L'Oreille Absolue. Aujourd'hui on reçoit Antoine Duchamp qui est réalisateur et photographe, qui travaille également dans la musique. Bah écoute, bonjour à toi.
Salut.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Ça fait plaisir de... Très bien, ça fait très plaisir de te recevoir.
Bah merci, merci pour l'accueil.
On te reçoit aujourd'hui parce que dans le contexte tu sors aussi tu sors ton livre qui rassemble 10 ans de photos. Donc ça va être l'occasion de parler de toi, de ton métier, tes projets. Voilà, bah écoute, je te propose qu'on commence.
Avec plaisir.
Bah écoute, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter?
Du coup, je suis photographe, réalisateur. Je travaille dans différents milieux, la mode, la musique. Je fais aussi des documentaires.
Par quoi as-tu commencé?
J'ai commencé par la photo.
Ok.
J'ai commencé par la photo quand j'avais 17 ans, 18 ans, je crois, un truc comme ça.
Ok.
Et mais pas longtemps après, je commence à faire de la vidéo avec des potes à moi. Et bah, j'ai continué les deux en parallèle l'un de l'autre.
T'as suivi des études de photo?
Non, du tout. J'ai fait des études de design.
Ok.
Mais j'ai pas pris un seul cours de photo. Je suis tout à fait tout seul, photo, vidéo, montage. Pas le temps.
D'accord. Et du coup, tes premières séries de photos, c'est comment est-ce que tu t'es lancé dedans? Est-ce qu'il y avait un... C'était pour toi-même?
Mes premières séries, c'était pour moi-même complètement. J'allais au zoo.
Ok.
J'allais au zoo, je faisais des photos d'animaux. C'était ça, mes premières photos. Et après, petit à petit, je savais que j'avais envie de faire de la photo dans l'univers de la musique. Et c'était via des potes de lycée qui faisaient de la musique, du coup j'ai commencé. Et après, petit à petit, j'ai contacté des magazines et j'ai commencé à bosser pour des petits magazines de rap et tout ça. Ils m'envoyaient à droite à gauche faire des portraits, des interviews.
Ok, trop bien. Donc du coup, t'as commencé par la photo, après tout de suite un peu des premiers clips, premiers clips de rap. T'as aussi fait une série de documentaires qui s'appelle Ready to Dance,
ouais,
qui est sur la backlife.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
La backlife, c'est un truc qui est communément appelé rodéo sauvage en France. Sauf que rodéo sauvage, ça prend en compte aussi les mecs qui font ça en voiture, qui font ça, enfin, peu importe l'engin motorisé. Moi, je me concentre sur l'aspect moto de toute cette culture et sur l'aspect justement culturel de cette pratique, que c'est une culture. C'est dans le monde entier, que c'est pratiqué par des milliers de personnes, qu'il y a des marques, qu'il y a des célébrités, qu'il y a des manières de faire les choses, qu'il y a des valeurs, des slogans, des films. Enfin, ça représente, ça prend en compte énormément d'éléments qui constituent ce qu'on appelle une culture en fait aujourd'hui. Et comme c'est dangereux et illégal, enfin, du coup, c'est ni, on va dire qu'il y a un déni de cette culture. Et le but des documentaires, c'est de mettre en avant tous les gens qui pratiquent ça avec le cœur et passion et talent à travers le monde. Et
ton premier épisode, Ready to Dance, c'est le premier que tu allais le faire aux États-Unis. Comment tu t'es retrouvé là-bas?
J'avais rencontré Half-Boy, qui est le personnage principal de ce documentaire. Je l'avais rencontré à Paris et j'allais à New York quelques mois après. Et du coup, il allait m'héberger pendant quelques mois, donc il m'a écrit qu'il voulait faire quelque chose. Je lui ai dit que j'allais réfléchir et avant de prendre l'avion, je lui ai dit viens faire un documentaire sur ta pratique de la moto. Et il était en mode let's go. Vu que j'étais chez lui, c'était facile, quoi. Dès qu'il y avait un plan moto, je partais avec lui et on allait filmer tout ça, quoi.
C'était ton premier documentaire à ce moment-là?
Ouais, premier long format comme ça aussi, c'était 26 minutes celui-là. Et première fois que je faisais un format comme ça et ça m'a vraiment plu.
Ok.
Ça permet de s'exprimer.
T'en as fait deux à la suite, t'as fait Paris en second.
J'ai fait Paris ensuite et Marseille après.
Ouais.
Paris et Marseille, c'est des formats un peu plus longs, ils durent 45 minutes. Parce que je voulais rentrer un peu plus en profondeur et j'ai réussi à... Comme c'est, c'est à côté de chez moi, en fait, au final, c'est plus simple d'y passer plus de temps, interviewer plus de gens et aller plus en profondeur que ce que j'ai pu faire à New York. Donc ça m'a permis de faire un format plus long. Et ça a plutôt bien marché quand celui de New York était un petit peu mou sur l'audience et les démarrages. Ceux de Marseille et Paris, ils ont vraiment, vraiment bien marché, ce qui a fait plaisir. Et voilà, merci à Facen dans l'épisode de Paris. Et merci à Didi, Marseille et tout ça, à Marseille, pour avoir permis de réaliser tout ça avec eux aussi.
J'ai commencé surtout par celui de Paris, que j'ai regardé en entier, que j'ai beaucoup aimé. Bah, du coup, Facen, personnage que je connaissais pas, mais très stylé, qui parle bien de son art. Aussi le petit Samy, qui parle bien aussi. Franchement, tout le documentaire met le sourire. Et c'est très beau, très, très esthétique. Pour la finale du PSG-Bayern, ouais. ça fait de beaux plans. Avec la Tour Eiffel et tout, c'est très stylé quand même.
J'essaye d'apporter quelque chose de très authentique, dans le sens où c'est pas ma culture à moi. Moi, je suis pas de moto pour en parler. C'est-à-dire que si je décide d'aller documenter ce que font des gens, je vais essayer de respecter leur vision de leur pratique, quoi aussi, qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Essayer de reporter quelque chose le plus honnête possible sur qu'est-ce qui se passe pour de vrai. C'est pour ça aussi que je ne m'exprime pas dans les documentaires, que je laisse les gens parler et c'est le spectateur qui se fait son avis de est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il n'est pas d'accord, est-ce que si, est-ce que ça. Et c'est vrai qu'à Paris, PSG Bayern, la dernière scène, c'est vrai que c'était quelque chose. Dans la Tour Eiffel, c'était cool.
C'est rare, tu vois. Genre c'est... En plus, ils disaient eux-mêmes qu'ils sont plutôt en général dans leur secteur, ouais. Et que malgré la défaite, sur des petites exceptions, ça va quand même honorer la ville.
Mais c'est dur, dans Paris même, c'est dur, parce que c'est des petites rues, c'est des petits ci, c'est des petits ça, tu peux pas vraiment fuir les autorités. C'est aussi super dangereux, en fait, de le faire dans Paris même. La plupart des endroits, il y a quand même beaucoup de monde.
Ouais, complètement. Par contre, ce qui m'avait pas mal surpris, mais ce qui était super intéressant de découvrir, c'était qu'en fait, au final, leur rapport avec les policiers, les choses comme ça, il y a quand même beaucoup de dialogues qu'ils essayent d'avoir. Après, faut savoir être furtif au dernier moment s'il le faut, mais il y a quand même une volonté de dialogue.
Ça dépend par qui et dans quelles circonstances, mais c'est pas le but des mecs en moto de se faire chasser par la police ou de chercher la merde de manière générale, quoi, genre de s'amuser. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas, et c'est ce que tout le monde m'a toujours exprimé. Si je le kiffe d'être sur ma moto, c'est pas le reste, ça va avec. S'ils essayent de t'arrêter, ils essayent de prendre ta moto, après ils la détruisent, ils la signent, ils la ça.
Ouais, ce qu'ils disaient. Ouais. Puis même Facen qui du coup travaille pour des marques aussi.
Travaille des marques, il fait des doublages.
C'est vrai. Ouais, complètement.
Mais après, oui, il n'a pas 36 000 dans la situation de Facen non plus, un cas à part aussi.
Et il commence très tôt aussi, parce qu'on voit le petit qui a commencé à 4 ans, qui est sur sa petite moto et tout.
Bah, ça prend du temps de faire.
Bah, ouais, bien sûr. J'ai noté, il expliquait comment faire une roue arrière. Genre. Saying about 100 bars in writing. It's about me and my prime, I'm sparring with Tyson. You niggas biting and I'm fighting with lightning. Ruler of the empire, I'm striking like Vikings. Fuck a father figure, I further my thoughts. Fuck a father figure, I further my thoughts. Praying on his shot, hope I won't come up short. Huh? Cause life is short. Shit real, fuck how you feel. Niggas in the field trying to chase dollar bills. Niggas get more than the mill. Niggas kill, niggas starve, niggas rob trying to eat. For that chicken they deliver, they rob before you sneak. Still bent on the liquor and I'm pissing in the streets. Watch them coppers and them D's, you know them niggas trying to creep. This the shit I witness. Dog. Est-ce que tu envisages d'autres documentaires comme ça?
J'ai envie de continuer sur la bike life. Après, est-ce que je vais continuer sur ma chaîne YouTube ou essayer de faire ça pour des médias ou quelque chose? Je sais pas encore.
Ok. Peut-être d'autres pays, du coup?
D'autres pays et ensuite d'autres idées de documentaires, ouais, probablement. Après, je sais pas quoi exactement. J'ai toujours des idées à droite à gauche. Le problème de documentaire, c'est qu'il faut que ce soit réalisable d'un point de vue contact et tout ça. Donc, en vrai, j'essaye toujours de faire des choses qui viennent naturellement à moi plus que faire des choses... sorti de nulle part, comme ça. Donc les documentaires sur la bike life, c'est venu naturellement. Et peut-être que d'autres sujets vont venir naturellement petit à petit, quoi. J'ai quelques pistes, mais pour l'instant, okay. C'est pour moi.
D'accord. Du coup, t'as pas mal voyagé aussi?
beaucoup aux États-Unis, j'ai l'impression.
Ouais.
C'est un pays que tu apprécies.
Alors, je sais pas si j'apprécie les États-Unis, mais j'apprécie New York.
Okay.
Et j'apprécie LA. Après, okay. Le reste, je connais pas vraiment. Et je suis pas sûr d'être fan, on va être honnête, mais New York, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup New York. C'est une ville incroyable.
D'accord.
Et LA, c'est agréable. Ça fait du bien, et de temps en temps, le soleil, les palmiers, les couchers de soleil, franchement, c'est un monde super sympa quand même.
Et t'étais parti là-bas initialement
La première fois que je suis allé à LA, c'était pour un producteur de musique qui m'avait emmené là-bas pour faire des photos.
Ok.
Un mec du Canada. Et Nino, il s'appelle.
Ok.
Après, je suis retourné à LA avec Bibi. Un pote d'Aubervilliers, très bon artiste, très bon ami, très bon artiste. Et on avait fait un petit clip là-bas d'ailleurs, Répondeur. Et non, j'aime bien. Et New York, j'ai de la famille à New York.
Ok.
Donc j'y vais assez régulièrement, pas que pour ça, mais aussi pour ça, quoi. Du coup, ça me permet de.
Bien sûr.
Une raison d'y aller, on va dire, tout le temps, dans tous les cas.
D'accord, trop bien. Ouais, c'est exotique aussi comme paysage, comme architecture, comme culture. Donc,
c'est inspirant. Moi, ouais, je kiffe tous ces grands immeubles partout, tous ces trucs interminables. Toute l'activité de New York, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup.
La backlife, là-bas, c'est omniprésent ou au final, ça reste quelque chose qui est...
Ça dépend où t'es dans la ville. Après, c'est pas toute la journée, partout, tout le temps. Mais si tu traînes une journée complète dans Harlem ou dans le Bronx, un truc comme ça, il y a quand même des probabilités que tu vois une moto passer à droite ou à gauche si c'est pas un crew complet, quoi.
Et tu fais de la moto toi-même?
Non, moi je fais pas de moto.
Okay.
J'aimerais bien, mais pour l'instant, non.
Et là, tous ces sports, toi t'as grandi parce que t'en faisais à un moment,
Non, moi je faisais du BMX quand j'étais petit.
Ok.
Donc je kiffais ça et tout, mais j'ai toujours voulu faire de la moto, j'ai jamais vraiment fait de moto. J'avais une pocket bike quand j'étais petit que j'avais acheté dans le dos de mes parents avec mon frère, qu'on avait caché dans le garage d'un pote. Et le grand frère de notre pote l'avait revendu. Et comme c'était le grand frère de notre pote, et ben nous, on pouvait pas faire grand-chose parce qu'on était vraiment petits. Et mes parents étaient pas au courant, donc voilà quoi. On s'est fait banane, on s'est fait rodka à la pocket bike, et puis c'est la vie, tu vois.
Ok, ça forme. Là, tu sors ton livre, quoi, ce livre, justement.
Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais de la photo, du coup, pour marquer le coup, et que j'ai jamais fait de livre. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité de faire une sorte de récapitulatif de 10 ans d'archives pour célébrer 10 ans de photographie.
Parfait.
Voilà, donc il y a un peu de tout, vraiment, il y a vraiment de tout.
Et il y a beaucoup de photos d'artistes que tu as suivies.
Mm-hmm.
Tu passes beaucoup de temps avec les artistes, tu les photographies,
Beaucoup de temps, ça dépend des périodes, on va être honnête. Ça dépend des périodes. Une bonne partie de mon taf reste quand même de travailler avec les artistes dans la musique. Je les suis dans différents contextes. Ça peut être des concerts, ça peut être des vies de tous les jours, ça peut être des sessions au studio. Ça peut être juste un portrait pour de la presse ou pour les médias ou des trucs comme ça, quoi.
D'accord.
Et un concert.
Ouais. On voit dans ton livre qu'il y a du coup Azaproki, Vald, Seth Gecko, Joker. Comment ça se passe les rencontres avec les artistes?
Ça dépend. C'est très aléatoire. Des fois, c'est l'artiste directement qui va me contacter ou moi qui vais directement contacter l'artiste parce que j'ai envie de travailler avec lui. Des fois, c'est des magazines qui vont mettre en relation parce que le magazine, ils sont en train de faire un sujet sur telle personne. Donc, ils t'appellent et ils disent on a besoin de photos de lui et ils ont tout mis en place. Je t'ai allé. Des fois, t'es à un event et la personne est là, donc tu vas la voir et tu demandes si tu peux faire un portrait. Ils sont d'accord. Voilà, des fois ils ont des concerts et tu peux demander des accrèdes quand t'es photographe, ça arrive, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver qu'ils te donnent une accrède juste parce que ça va faire un peu de promo des belles photos. What your process is, I don't know.
big tits, a rap game, wishlist, a rap game, wishlist. And I'ma get this with the Lord as my witness. Passed every test, they done gave me the litmus. Had to get my workout, ain't no shit about fitness.
On est sur 10 ans de, 10 ans de photographie, je me dis, est-ce que tu sens ton style évoluer?
Mon style évolue, oui. Pendant longtemps, je pense qu'il a pas évolué, mais ça fait quelques temps que j'ai eu une sorte de crise artistique, on va dire, crise créative. Et j'essaye justement de le faire évoluer vers quelque chose de plus personnel et plus à moi
okay.
que ce que je pouvais faire avant.
D'accord.
Mais après, je reste dans les mêmes sphères, les mêmes domaines, les mêmes milieux. Donc les sujets restent les mêmes en tout cas.
Est-ce qu'il y a des artistes, des photographes qui toi t'inspirent?
J'ai pas mal de... Pas, comme tout le monde, je pense que oui. Après, j'ai beaucoup de mal à me souvenir des blases, des artistes, des photographes, des gens là comme ça de nulle part, tu vois. Mais je sais que Sébastien Salgado, c'est vraiment la personne dont j'apprécie le plus le travail. Alors qu'il fait pas grand-chose... qui a à voir avec mon travail, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un travail qui, je pense, est utile en plus à l'humanité.
Ouais, parce que même derrière, il y a des projets aussi de reforestation qui sont super intéressants.
Exactement, et même la manière dont il documente la nature, les choses dans le monde entier, de la manière dont il l'a fait et continue de le faire, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, je pense, pour le travail d'archives qu'on a à faire en tant qu'humain de ce qui se passe.
Complètement.
Après, il y a Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, c'est pas forcément son travail en lui-même que j'apprécie énormément, on va être honnête, mais c'est plus l'évolution dans la carrière. Là, dernièrement, j'ai acheté un de ses livres, où c'est les débuts d'Annie Leibovitz. Elle a commencé vraiment sur des trucs... elle documentait, elle faisait de la photo documentaire, techniquement, pour Rolling Stone Magazine et des trucs comme ça, des trucs de musique, mais c'était du documentaire. Et aujourd'hui, elle fait des photos construites de toutes pièces super compliquées avec plein d'éclairages et plein de ci et plein de ça et plein de machin. Et je trouve ça intéressant comme évolution artistique parce que si on découvre Annie Leibovitz aujourd'hui, il n'y a personne qui va se dire qu'elle a pu commencer comme ça.
Ok.
Enfin, je trouve. Enfin, moi en tout cas, je ne me l'étais pas dit avant de voir ce livre et j'étais un peu surpris, tu vois, qu'elle commence vraiment comme n'importe quel autre. Enfin, là, jamais au début, c'était pas du travail très compliqué, quoi. C'était plus l'œil et tout ça. Et petit à petit, elle a commencé à construire vraiment un univers quand au début, elle documentait l'univers des autres. Et ça m'inspire parce que c'est un peu vers quoi j'essaye aussi de me diriger sur le long terme, même si j'ai pas du tout envie de créer le même style qu'elle et le même univers qu'elle. Ça m'inspire l'évolution monde réel vers monde créé, on va dire, entre guillemets. Et voilà, hein. Après il y a Bruce Davidson que je kiffe du fou.
Que je connais pas, c'est. Je n'ai pas l'intention de m'en souvenir.
Lui, il est grave connu pour ses photos du métro à New York. Et le dernier photographe que je pourrais citer, c'est Jonathan Mannion, mais pour ses clichés légendaires du monde du rap, depuis toujours.
Okay.
T'es là dès le début, il y a des photos de Tupac, il y a des photos de Biggie, il a des photos de tout le monde jusqu'à aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui toujours. Il avait des photos légendaires de DMX, Nipsey Hussle, tout ça. Enfin, c'est vraiment. C'est pas forcément l'esthétique que je préfère, son style, mais respect, et la carrière m'inspire.
Oh shit! You done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect, I paint a perfect picture. Bomber hoochies with precision. My intentions took you with you with that and double OP. Dog, my fucking homie, you's a cold ass nigga on them all.
Showing up, I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom, waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the nigga's mind, but at the same time, it seems they trying to take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit, and put together a million march for some gangster shit.
So now they got a slate, two multi-millionaire motherfuckers catching cases. Bitches get ready for the throwdown, the shit's about to go down. Me and Snoop about to clash. I'm losing my religion, I'm vicious on these stool pigeons. You might be deep in this game, but you got the rules missing. Niggas be acting like you savage, they out to get the cabbage. I got nothing but love for my niggas living last.
I got a pit named P, she niggerina. I got a house out in the hills, right next to Chino. And I
think I got a black Beamer, but my dream is to own a fly casino like Bugsy Siegel and do it all illegal and get scooped up by the little homie in the Riga. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker. Now follow as we ride.
Est-ce que tu travailles aussi sur d'autres projets en...
Je travaille sur ma première expo aussi, du coup.
Okay.
Dernière semaine de septembre, normalement. Première exposition.
Okay.
Donc voilà.
Qui reprendra des photos, des photos.
Ça reprendra des photos du livre. Ça reprendra aussi d'autres trucs à côté que j'ai pu faire après.
Okay.
Parce que le livre, il représente 10 ans de photos. Donc 10 ans, il y a une date limite. Donc tout ce que j'ai fait après 2022, tout ce qui est fait là cette année déjà 2023 et tout n'est pas dans le livre et ne sera pas dans le livre. Donc par contre, c'est des choses que je me permettrais peut-être de mettre dans l'exposition pour certaines photos.
Ok, trop bien.
Donc voilà, après le livre sera en vente aussi, je pense, à l'expo si j'ai pas déjà tout vendu d'ici là.
Ok.
Je pense pas en toute honnêteté vendre les 200 d'ici là, donc je pense qu'il y en aura à l'exposition. Et
comment, si on le cherche à un moment, comment est-ce qu'on pourrait le trouver ?
Sur mon site.
Sur ton site ?
AntoineDeschamps.com, mais sinon tu tapes mon blaze dans Google et en vrai ça va sortir.
Du coup, bah écoute, on va aussi discuter un peu de ton rapport à la musique. Est-ce que toi t'écoutes beaucoup de musique,
mm-hmm.
Essentiellement du rap.
Essentiellement du rap, mais j'écoute quand même pas mal d'autres trucs.
D'accord, t'écoutes quoi en ce moment ? Plutôt rapricain ou même...
Plutôt rapricain que rap français. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Bah écoute, je vais ouvrir mon Apple Music.
Allez.
Je vais te dire ce que j'écoute en ce moment. Ah bah oui, bah en ce moment j'écoute beaucoup en rap français, j'écoute beaucoup le dernier projet de Malo. Malo c'est un poteau qui commence à bien marcher. Et son dernier projet, ID, est vraiment, vraiment cool.
J'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les applications. J'ai pas le droit à des manques d'implication. À cheval sur mes principes d'équitation. Du coup désolé, je suis parti sans explication. Je suis pas vraiment désolé, c'est juste dans mon éducation. J'ai mélangé méditation avec médication. Que des faux sourires dans les publications. Parce que la vie c'est rempli de complications. J'ai fermé toutes les fenêtres, toutes les applications. J'ai pas le droit à des manques d'implication. À cheval sur mes principes d'équitation. Du coup désolé, je suis parti sans explication. Je suis pas vraiment désolé, c'est juste dans mon éducation. J'ai mélangé méditation avec médication. Que des faux sourires dans les publications. Parce que la vie c'est rempli de complications. De potes à moi, j'en ai perdu tellement pour du zeil. Ici bas tu peux pas dire tout ce que tu sais. Parce qu'il y a des gens qui viennent gratter jusqu'à ce que tu saignes. Toujours aux aguets, je sais qu'on dirait pas mais je suis zen. Eh, tout est clair, quoi, rien de flou. Eh, quand l'argent rentre ça fait un bien de fou. Des fois je me sens comme une rockstar, j'ai besoin d'un banc de foule. J'suis parano mais rien de fou, j'suis jeune et plein de fou. Eh, problème solution c'est gravé dans ma peau. J'ai mon avenir dans la paume, j'dirai plus jamais j'prends ma pause. Bitch, j'ai roulé ma bosse. J'suis plus dans la dope, mais j'suis toujours sous gelato. Bitch, depuis l'époque des Pussycat Dolls. Moi si j'fais pas des sous, j'suis pas dedans. Yeah, maintenant j'fais des gros, des petits cadeaux. Mon baby mama fait des petits pas de danse. Yeah, pas lever son cul, c'est dangereux. J'm'en bats les couilles de mes traumas. J'suis pas là pour jouer, mais j'suis dans le jeu.
Très bon rap, fond, très bien écrit, très bien rappé. Vraiment j'sais génial, très bien produit aussi. Des très bonnes prod. Et une recherche, je trouve, aussi dedans. Enfin, il se démarque comme projet. C'est pas un projet qu'on est habitué, je pense, à entendre dans le paysage du rap français. Après, j'écoute quoi en ce moment ? J'écoute beaucoup Sa Baby. Dans mon iPhone actuellement, j'ai aussi ajouté pas mal de projets de musique malienne.
Ok.
Voilà. J'étais tombé là-dessus, je sais pas comment, mais Ali Farka Touré.
Ah, classique.
Lourd.
Ouais.
Voilà. Je tiens à dire, stylé de ouf. J'ai beaucoup kiffé aussi, j'avais entendu ce son et j'aurais jamais dit que c'était Amadou et Mariam, mais Sabali,
okay.
D'Amadou et Mariam est vraiment un morceau génial. Ça j'écoute beaucoup en ce moment aussi, je me bute à ça. J'écoute beaucoup Young Nadi,
okay.
Mais ça c'est permanent, c'est pas une question de nouveaux projets ou autre, c'est toute l'année. Et puis voilà, en ce moment ouais, j'écoute vraiment pas mal tout ça.
Ali Farka Touré, j'avais découvert, c'était le morceau Eidou, il était passé dans L'Auberge Espagnole.
Eh ben, je connais pas ce morceau, mais...
Je crois que c'est leur plus gros morceau.
C'est lourd en tout cas.
Très stylé, que je recommande.
Thank you. réveille-le.
Il y a Futur, il y a beaucoup de Trippie Redd. Le projet de Trippie Redd, tout l'album de Trippie Redd, il est dans mon top. C'est un projet vraiment, vraiment sale. J'ai beaucoup kiffé.
Du coup, j'ai regardé tous tes clips aussi et j'ai vu qu'il y avait. Alors, je vais retrouver le nom, excuse-moi. C'était Didi Trix.
Ouais.
Que je connaissais pas, mais qui, avec le son Malabar, qui avait fait. Celui qui est le pratiquement le plus de vues, en fait, sur, dans les clips que tu as fait.
Ouais.
C'était un clip que tu avais réalisé comment?
C'était quelqu'un que je connaissais chez Awa Gang, qui est un label, c'est le label de DJ Core, okay. Je dis pas de conneries, qui c'est un label Sony, et il m'avait contacté pour faire le premier clip de Didi Trix après sa signature chez eux, quoi, du coup. Donc il venait de signer, c'était son premier clip en tant qu'artiste signé, et voilà, ça a bien marché, c'était cool, okay, c'était un bon petit projet.
C'est compliqué à faire des clips comme ça?
Ça, non. Okay. Enfin, ça dépend pour qui, pourquoi, comment. C'est ton premier truc, ça risque d'être un peu compliqué, mais globalement, c'est vraiment pas un projet. C'est un projet que j'ai fait tout seul à 100%. C'est pas ce que j'appelle compliqué, on va dire, quoi, du coup.
Comment ça se fait, justement? Comment on fait un clip?
Il y a plein de manières de faire, mais ça dépend du clip que tu fais. Ça, c'est des street clips. Il n'y a pas vraiment d'écriture au préalable, quoi. Tu réfléchis plus à 2-3 concepts avec les mecs et après, tu pars tourner au quartier et c'est la vie de quartier, l'inspiration sur le moment et tu vois ce que ça donne. Mais tu peux avoir des clips où c'est juste des clips, c'est des films. Donc tu vas devoir le préparer comme un film, entre guillemets, tu vas devoir écrire ton truc, écrire tous tes plans par plan, ton storyboard, ton moodboard, ton machin et tout. Il y a des clips qui sont faits sur le moment et tu vas à l'impro complète. Moi j'aime bien l'impro, j'aime de plus en plus préparer,
okay.
Mais pendant longtemps je trouvais ça intéressant de juste aller capter le moment présent et en faire une vidéo, quoi, le mieux possible. Okay. Après, ça arrive que ça manque de croustillant, quoi, quand on fait ça comme ça.
Dernière question sur la partie un peu technique, si je m'étais posé cette question-là, c'est, tu sais, ça fait pas forcément longtemps, enfin, là en ce moment, ça fait beaucoup le buzz, on en parle beaucoup, avec Midjourney, ce genre de choses, quel regard t'as sur ces technologies-là, est-ce que tu les utilises ou pas?
Moi, j'utilise pas. Je pense que ça peut être intéressant pour tout ce qui peut être préparatoire dans un projet. Y a des gens qui ne savent pas dessiner, faire un storyboard, par exemple. Après, je pense que, je ne sais pas comment formuler ça, mais globalement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour nous en tant que créatifs de manière générale, parce que là, techniquement, ça fait ce qu'on fait. Après, une AI pourra jamais, j'espère en tout cas, avec ces trucs-là, faut jamais dire jamais, on sait jamais. Mais elle pourra jamais récupérer l'authenticité et la valeur que apporte la création d'une photo dans un moment réel et présent et existant pour de vrai. Mais je pense que surtout pour tout ce qui est graphisme, illustrateur et toutes ces choses-là, je pense que ça peut prendre leur taf, alors que ouais, je pense vraiment que rien peut enlever l'authenticité de quelque chose, en fait. Moi, je fonctionne beaucoup à l'authenticité et je trouve que bah, l'IA, il n'y a rien d'authentique. C'est l'opposé de ça.
Et ce n'est pas de l'art. Voilà, je le dis. Les gens qui pensent que ce sont des artistes IA, je pense que vous êtes matrixés. Voilà, parce que... quitte à m'attirer des foudres et tout et machin, mais faire des descriptions, c'est pas faire de l'art.
Ouais, c'est plus un travail technique dans ces
cas. Après, il y a de l'art, y a de l'art écrit, mais c'est pas de l'art écrit que de donner un prompt à une IA, quoi. Écrire un livre, raconter une histoire, c'est de l'art. Écrire un roman, écrire un poème, écrire ce que tu veux, c'est de l'art. Mais écrire un prompt technique à une machine qui, en fonction de ce que tu lui dis, va plus, enfin, elle est programmée à comprendre certaines choses déjà de base, donc il faut juste connaître comment parler à cette machine pour créer certaines choses. C'est du savoir, c'est pas de l'art. Enfin, c'est comme ça que je vois. Break.
Roses red, violets are blue. I just might cut off all my hoes for you. So what you like, ah ha ha ha. So what you like, ah ha ha ha. I'm falling for you, and I don't wanna catch myself. No, I don't wanna catch myself. And I don't wanna catch myself. I'm falling for you.
Tu vois là sur cette photo il y a une arme.
Ouais.
Genre t'as eu des armes à feu autour de toi, dans des clips, dans des. Ou c'est des factices, je sais pas.
Non, c'est vrai.
Ok. C'est.
J'étais parti tourner une pub.
Ok.
Dans le sud de la France. On va garder ça large. Et il y avait une scène avec des. On avait besoin d'armes à feu. Pour le côté authentique des choses et par rapport à pour qui je faisais la vidéo et par rapport à moi, mon approche de ces choses-là et tout, soit c'est des vrais, soit il n'y en a pas.
Ok.
Parce que si on est là pour mettre des fausses armes et des machins, les armes, c'est pas quelque chose de. C'est pas un truc bandant en vrai. Ça sert à rien d'en mettre des fausses si c'est juste pour faire genre. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc, on est parti chez des gens qu'on connaît. Qui ont des vraies armes. Et dans les petites histoires, ça, tu voulais que je raconte des petites histoires tout à l'heure, ça, c'est passé un peu comme dans les films, quand on nous a donné rendez-vous sur le parking d'un fast-food à minuit, 23h, je ne sais plus, il était tard.
Ok.
Et le mec est venu en voiture, il nous a dit « Suivez-moi ». Et on l'a suivi pendant une demi-heure dans des petites campagnes, et des petites routes et des petits machins, jusqu'à ce qu'on arrive à une maison. Et dans le jardin de la maison, il y avait un camping-car. Et dans le camping-car, il avait des fusils à pompe, des pistolets, tout l'attirail nécessaire pour se défendre, évidemment.
T'avais déjà eu des armes à feu autour de toi ?
Oui.
Ok, ouais, d'accord.
Différents clips à droite, à gauche, aux États-Unis, régulièrement.
Aux ouais. J'imagine plus.
On m'a encore sorti une arme avant. Yeah. Sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed. Without we, you know what I'm saying? That old real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks in my part of town. It's similar to Vietnam.
Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready. Tryna back me and get rock steady. By the Mac one double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll.
Cette photo-là, je l'ai vue pas mal sur ton site. Quoi, un peu les histoires, t'es où?
La première, c'est Bibi dans le désert à Los Angeles. Donc c'est quand on était, je t'avais dit un peu plus tôt là, dans, quand on parlait de, j'étais parti à Los Angeles avec Bibi. Ça c'était un matin, on s'était levé, j'étais en mode les gars, venez on va dans le désert. Et c'était en mode on va où dans le désert. Et j'ai ouvert la carte, j'ai vu un endroit qui s'appelait High Vista. J'ai trouvé le blaze grave stylé, du coup j'ai zoomé, j'étais en mode je pense qu'on va aller là-bas parce que le blaze il est cool. Et il s'est avéré qu'à High Vista il y avait la Kill Bill Church.
Ok.
Je sais pas si tu vois l'église dans Kill Bill, il y a un Kill Bill,
okay,
une église dans le milieu du désert. C'est aussi une église qui est dans des clips de Britney Spears, de plein de clips et tout. C'est vraiment une église hollywoodienne au milieu du désert. Quoi.
Trop marrant.
Mais c'est une vraie église. Qui Donc on a décidé d'y aller, on est parti là-bas. Et on a trouvé le régisseur, ou je sais pas comment ça s'appelle, le mec qui gère l'église, même si c'était pas un prêtre, ni un pasteur. C'est vraiment le gars qui s'en occupe, qui a racheté l'église et qui s'en occupe. Photo avec Bibi, du coup on l'a faite en face de l'église. Il y avait une voiture abandonnée, toute niquée au milieu de.
Ah, c'est. Je pensais que c'était mais... comment vous étiez arrivé, vous aviez dessiné un peu la scène, pas du tout.
Non, c'est complètement. Je lui ai dit, pose-toi là, il s'est posé là, et c'est une de mes meilleures photos que je préfère.
C'est quoi les plus. Peut-être on va dire les trucs que tu kiffes le plus dans ton métier de photographe et de réalisateur, et aussi les. On va dire les barrières, les choses les plus compliquées.
Ce que je kiffe le plus, c'est que ça permet de vivre différentes vies. Genre, quand tu fais de la photo, tu t'intègres à l'environnement des gens qui n'est pas forcément le tien. Et d'être dans cet environnement, tu dois y être sans vraiment y participer parce que tu le documentes ou tu es là pour prendre des photos. Tu n'es pas là pour contribuer à ce qui se passe ou changer le cours des choses et tout ça. Tu es vraiment juste là pour faire des photos. Donc ça te permet de rentrer dans l'intimité, dans la vie des gens. Et je trouve ça grave intéressant parce que ça te permet vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment permis de vivre différentes vies que j'aurais pas eues si j'étais pas photographe, quoi. Ça me permet d'être un jour à la cité en train de tourner un clip avec des fusils à pompe. Et le soir même, je suis à l'ambassade du Brésil pour un défilé de la Fashion Week avec que des gens pétés de thunes et tous les petits chichis qui vont avec la Fashion Week et le buffet, le champagne, madame et machin et trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est des choses que j'aurais jamais vécues si j'avais un métier de bureau et que j'irais au bureau tous les jours et tous les jours faire la même chose avec les mêmes personnes. Même quand je shoot des mannequins, tous les jours, c'est des profils différents. La même journée, je peux parler avec une Biélorusse, une Péruvienne, une Brésilienne et une Anglaise, tu vois. Par exemple, c'est un exemple que je te donne, mais il y a des jours de shoot, c'est comme ça. Et du coup, même si c'est des petits shoots, tu vas parler avec tout le monde, tu vas découvrir des nouvelles perspectives sur la vie, des nouvelles manières d'être, des nouvelles cultures, des trucs. Et t'as plein de bribes de ça permanentes qui viennent à toi grâce à ça. Et je pense pas que ce soit. Je pense que c'est vraiment le truc que je préfère dans ce métier. C'est même pas forcément faire des photos, c'est tout ce que ça me permet que de faire des photos. Tout ce que ça me permet de découvrir, tout ce que ça me permet de faire, tous les endroits où ça me permet d'aller. La photo, c'est vraiment un outil qui me permet de répondre à mes curiosités.
Et de l'autre côté, les difficultés auxquelles on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais d'un point de vue peut-être légal ou des choses comme ça, les contrats sont peut-être les...
Bah, les contrats, énormément de choses qui se font sans contrat, on va être honnête. Il y a beaucoup de choses qui se font à la parole. Après, je pense que ça dépend des milieux. Parce que je connais des gens qui ne travaillent qu'en contrat. Mais je sais que dans le rap et le monde un peu plus de la débrouille, c'est énormément à la parole, quoi. On va se faire confiance et puis on va faire ça comme ça. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de problèmes, hein, on ne va pas se mentir. Mais les contrats, ouais, c'est quelque chose de compliqué parce que ça coûte cher de faire des contrats. Il faut aussi connaître en droit et tout ça. En tant que photographe, on n'a pas forcément d'argent tout le temps. Ça dépend si on a beaucoup de taf, pas de taf, tout ci, tout ça. Mais avoir l'argent pour payer un juriste ou un avocat de manière régulière sur tous les contrats, de tous les trucs, tous les machins, ça coûte quand même énormément de blé.
Ouais, bien sûr.
Donc, il faut avoir des clients qui te payent aussi beaucoup d'argent. Donc, il faut des clients qui ont de l'argent. Enfin, c'est tout un cercle qui n'est pas forcément donné à tous les photographes du marché. Mais non, dans les vraies contraintes, je pense les contraintes, c'est le matériel. Ça coûte la peau du cul. Peu importe ce que tu veux, c'est 1000 euros, quoi, en vrai, si tu veux un truc bien, dans la photo et la vidéo. Genre, Et je parle pas des appareils, du coup, je parle des accessoires, là. Okay. Mais tu veux un bon appareil photo, bon, après, il y a des trucs que tu peux faire certaines choses avec, mais tu veux du vrai bon matos professionnel, ça va te coûter au moins 3000 euros ton boîtier. Tu veux une bonne caméra et que ce soit une vraie caméra et pas un appareil photo qui fait des vidéos, ça va te coûter au moins 7000 balles. Sans l'équipement autour, juste la caméra en elle-même, quoi. Après, il faut acheter l'objectif, les écrans, les poignées, les stabilisateurs, les trépieds, les lumières, les rails.
C'est
pour ça qu'on loue beaucoup, ouais, on va pas se mentir. Okay. Y a beaucoup de réals qui n'ont pas forcément leur matos. C'est plus les boîtes de prod qui ont leur matos. Et les réals, ils louent.
Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie de t'être prêté au jeu, d'être venu. C'était très intéressant. N'hésitez pas à aller voir directement sur son site ses photos, ses clichés, ses clips. Et si jamais vous voulez commander son livre, vous pourrez directement le retrouver dessus. Le livre, c'est A Decade of Photography, qui reprend les 10 ans de travail.
Et du coup, merci beaucoup à toi et au plaisir.